De nombreux architectes qui lui sont contemporains partagent ce point de vue. Ce point de vue contre une académie qui a réussi à transformer les règles en d'inflexibles dogmes, ces jeunes gens les rejettent. L'auteur, pour qui l'architecture ancienne et le gothique antique et le gothique en tête reste ce qu'il y a de mieux, le sait et il ne fait aucun doute qu'il place quelque espoir dans cette génération que l'on voit sourdre et élever sa voix, je cite, dans les ateliers où d'exécrables professeurs forment à leur insu d'excellents architectes. Si l'auteur ne nomme aucun architecte en particulier, il est facile d'y reconnaître la génération des Ducs, Duban, Vaudoyer et Labrouste, ce que l'on a parfois appelé commun. De façon facile, la bande des quatre, faisant d'eux les quatre mousquetaires du renouveau architectural en France. Pour simpliste que soit l'appellation, elle a pour mérite de rassembler quatre architectes qui, incontestablement, rejettent, partiellement en tout cas, on verra plus tard, la tradition néoclassique, responsable, selon Victor Hugo, du tarissement de l'inspiration contemporaine. Mais là où Hugo s'arrête sur une critique désabusée, je postulerai que Henri Labrouste propose des solutions construites. Les deux hommes, on le sait, se côtoient. Ils se seraient rencontrés pour la première fois en 1830, alors que le jeune Henri Labrouste, Grand Prix de Rome 1824, revient à Paris, où une atmosphère sulfureuse accompagne depuis quelques mois sa restitution du temple de Paestum. Le milieu de l'architecture en est tout encore remué. Le tout Paris en parle, dépassant le cercle des seuls spécialistes, le débat atteint le monde des arts tout entier. Quiconque d'attentif à l'actualité de son temps n'aurait pu manquer d'être informé d'ailleurs de l'affaire. La relation entre les deux hommes ne saurait néanmoins se résumer à l'entrevue de 1830. Si l'on en croit Léopold Hugo, mais aussi Léon Labrouste, le fils de Henri, leur conversation aurait également nourri les pages que Hugo appelle inédites de Notre-Dame de Paris. Bien qu'aucune correspondance entre les deux hommes n'ait été retrouvée à ce jour, les notes des deux hommes permettent d'affirmer qu'ils entretinrent un commerce durable. L'un comme l'autre, en consignant le sommet dans ses notes, que ce soit Hugo, qui note précisément dans son journal la pose de la première pierre de cette bibliothèque Sainte-Geneviève en 1844, ou que ce soit Henri Labrouste, qui consignera dans son journal des travaux de la bibliothèque Sainte-Geneviève la présence de Victor Hugo à la pose de la première pierre. Ce travail, qu'on a déjà nommé au début de ce mini-exposé, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève, construite à Paris entre 1844 et 1850. Un édifice qui, bien que soumis à la satisfaction d'un programme précis, il ne faut pas oublier, c'est une bibliothèque, constitue incontestablement une réponse à Victor Hugo et à son jugement pessimiste sur l'architecture de son temps. Le bâtiment, en face du Panthéon, que vous connaissez certainement tous, occupe l'emplacement de l'ancienne prison Montaigu, et il abrite, en même temps qu'il doit mettre à la disposition d'un public savant, les fabuleuses collections des Génovéfains qui avaient échappé à la Révolution. Cette bibliothèque, couverte d'éloges à son ouverture en 1851, par les professionnels de la profession, comme le comte de Laborde, qui est l'un des théoriciens des architectures des bibliothèques du XIXe siècle, le bâtiment fait l'objet de critiques plus mitigées, non seulement du grand public, mais aussi de ses collègues architectes. On ne sait malheureusement pas comment Hugo accueillit cet édifice, mais toujours est-il que l'édifice lui-même fut souvent caractérisé ou qualifié de « page d'écriture naïve », comme on peut le lire notamment dans des critiques de la revue L'Artiste. On touche là en effet au cœur du problème, et cette façade qui ne ressemble à rien de connu est à la fois trop simplette et manque de monumentalité. Elle manque de monumentalité, ça c'est le premier coup de griffe à la tradition académique, celle défendue par les académies, où l'ordre, cet ensemble qui articule ensemble une colonne, un chapiteau et un entablement, a disparu entièrement de la façade, et se retrouve simplement remplacé par une succession de baies, de fenêtres. À ceux qui s'étonnent d'un tel oubli, Labrouste rétorquera qu'une bibliothèque étant moins importante qu'une église, elle n'a pas besoin de colonnes, le pilastre lui suffit. Second coup de griffe, à la place d'une façade qui doit faire monument, l'architecte propose un bâtiment d'un type nouveau, en architecture du moins, qui est en quelque sorte conforme aux trois unités de temps, d'action, de lieu que Hugo critique ou débat du moins dans sa préface de Cromwell. Tandis qu'il va se souvenir également dans ce bâtiment-là des meilleures leçons du gothique. Le lieu d'abord, on se trouve en face du Panthéon. Personne ne peut l'ignorer, et personne ne peut l'ignorer d'autant plus que le Panthéon est présent lui-même dans la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève au travers des guirlandes qui se trouvent tout au long du rez-de-chaussée de la bibliothèque Sainte-Geneviève, du moins sur toutes les faces de ce parallélépipède. Il ne faut aucune qualité d'observation d'ailleurs pour remarquer qu'elles sont quasiment identiques à celles du bâtiment préexistant. La date 1848 marque l'aplomb de la porte d'entrée et elle garde la mémoire, non seulement de la Révolution 1848, mais peut-être plus amusant et moins connu, que la bibliothèque Sainte-Geneviève a servi de garnison aux troupes de 1848 pendant près de 2 mois, alors même qu'elle n'était pas achevée. 1848 est importante pour la Brouste, c'est la date de la Révolution, et c'est une date qui est fort importante. L'action figure également en façade, et de part et d'autre de l'unique point d'entrée, la Brouste va utiliser 2 torches qui vont matérialiser autant l'éclairage au gaz, qui est la spécificité de cet édifice, mais également le rôle de la lecture, et on évitera de rappeler ici que la lecture est censée sortir l'esprit des ténèbres. Redevable des palais italiens comme le Rucellai à Rome, dont les baies en sont directement inspirées, la façade participe également d'un type de recherche nouvelle qui tire pleinement parti des exemples gothiques où, selon Viollet-le-Duc et ses suiveurs, la décoration procède de la structure et rend celle-ci visible. La Brouste ne fait d'ailleurs pas autre chose quand il écrit sur les 27 panneaux qui remplissent les 3 façades principales de son édifice, quand il est rempli de noms. Il grave en façade ce que l'on trouve à l'intérieur et ainsi la façade se retrouve n'être qu'une projection de l'organisation intérieure. Gothique, la Brouste le sera trop pour l'administration qui jugera ses esquisses initiales, mais pas assez pour un Viollet-le-Duc qui regrettera que l'architecte n'aille pas jusqu'au bout de sa logique en laissant voir en façade les forces en présence, ce qui reviendrait à ajouter des contreforts. Peu importe, c'est bel et bien un monument novateur que propose l'architecte, rendant lisible l'architecture, et c'est bien ce que souhaitait Victor Hugo. J'aimerais peut-être, mon discours est complètement abstrait pour vous, jusqu'à présent j'imagine, mais avec les diapositives que je vais vous montrer, ça sera peut-être un petit peu plus clair, si on peut commencer avec les diapositives. Alors ici on a une représentation d'Henri Labrouste, mais à Henri Labrouste vieillissant. Quand Henri Labrouste construit cette fameuse bibliothèque Sainte-Geneviève, quand il en reçoit la commande, il a à peine une 30aine d'années. Ici, c'est un Henri Labrouste déjà établi que l'on voit représenté ici par Ingres. La suivante, c'est uniquement le texte qui a été publié à l'occasion de la pose de la première pierre à laquelle Victor Hugo et Labrouste se sont retrouvés. Voilà. Donc là, on arrive à l'une des premières esquisses de cette façade où vous allez reconnaître au rez-de-chaussée, entre le rez-de-chaussée et le niveau supérieur, la guirlande, la frise qui fait le tour du bâtiment et qui est directement reprise du Panthéon voisin. Ce sera mieux. Et la partie supérieure que vous voyez ici, ces baies qui sont reprises du palais Rucellai de Rome, surplombent ces panneaux. Il y en a 27 sur les 3 faces principales, du moins les 3 faces visibles du bâtiment, sur lesquelles Labrouste va faire graver 810 noms. Ces 810 noms, ils sont importants. Ils vont de Moïse, qui est tout à fait de ce côté-là, à Berzelius, qui est un chimiste suédois qui meurt en 1848 et qui rappelle encore une fois, si c'était nécessaire, combien la date de 1848 sera importante pour la Brouste et combien peut-être elle a été également pour Victor Hugo. La suivante. On a la même chose. Là, vous avez une esquisse qui vous montre l'intérieur de la bibliothèque et vous voyez bien la reprise de l'intérieur sur ce que l'on voit en façade. On va le voir un petit peu mieux encore dans la prochaine. Voilà. Donc là, on a une coupe transversale de la bibliothèque qui vous montre que les noms des auteurs que l'on retrouve à l'extérieur sont également les noms de ces livres qui sont sur tous les rayonnages à l'intérieur et qui sont considérés par les critiques, par certains critiques de l'époque, comme César Daly, comme la plus belle ornementation de la bibliothèque. Voilà. Voici la porte d'entrée principale où on retrouve encore une fois cette guirlande du Panthéon. Ce que l'on n'en voit pas malheureusement ici, c'est comment cette porte a été couronnée par la suite d'un petit médaillon dans lequel on a inscrit cette date de 1848 qui rappelle la date de l'action principale de cette bibliothèque. Et la suivante, qui n'est pas très très visible, mais qui vous montre cette torchère qui représente à la fois l'éclairage au gaz, dont la bibliothèque Sainte-Geneviève est la première à être équipée à Paris, et aussi, peut-être d'une manière symbolique, comment, en entrant dans cette bibliothèque, on peut ressortir l'esprit éclairé. Voilà. On la revoit un petit peu mieux ici. Et la dernière, qui est simplement pour le plaisir, qui vous montre le vestibule de cette bibliothèque que vous connaissez sûrement. Voilà, j'en ai fini, c'était simplement un tout petit exposé pour vous montrer qu'il pouvait également y avoir une correspondance entre Victor Hugo et des architectes de son époque et quelles pouvaient être leurs relations. Ici, il me semble que l'idée de l'unité de lieu, de temps et d'action est bien reprise dans la façade de la bibliothèque. Et également, ce qui me semble important, c'est d'arriver, pour un architecte comme Labrouste, à construire un bâtiment qui a une forme d'architecture nouvelle, qui apporte quelque chose comme une réponse, mais une réponse qui serait positive au désabusement de Victor Hugo, en tout cas pour l'architecture de son temps.
Bon, je vous remercie.
C'est un peu rapide.
Je vous remercie, Madame Ozano. Est-ce que vous voulez qu'on vous pose des questions
pas spécialement, s'il y en a, j'y réponds.
Très bien. Non. Bon, si vous avez des questions à lui poser, puisqu'on est en retard, une seule ou deux questions, si ça vous convient.
Je suis très intéressé par ce que vous venez de dire et je crois qu'il faudra... Il faudra faire une recherche complémentaire pour savoir s'il n'y aurait pas des traces de relations plus précises entre Hugo et Labrouste. Mais je voulais signaler qu'hier soir, je ne sais pas si vous y étiez ou si vous ne l'avez pas su, est passé à l'Institut franco-japonais le court-métrage intitulé « Victor Hugo, architecte ». Éric Rohmer, et donc
d'accord.
Le sujet n'était pas absent de ces deux journées.
D'accord, c'était ma faute.
Non, mais il n'était pas annoncé, donc vous étiez bien excusé de ne pas le savoir, mais c'était pour signaler que votre présence aurait été précieuse, parce qu'on aurait pu discuter de la pertinence des présentations qui sont faites dans ce film.
Merci Arnaud Laster.